Bonjour et bienvenue dans Catharsis, le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Le thème du jour, l'enthousiasme. Petite définition de l'enthousiasme pour faire plaisir à Rémi. Alors, qui ressent et exprime une joie sincère et spontanée à la pensée ou à l'idée d'accomplir quelque chose. Je suis Jazia et je suis accompagnée aujourd'hui par trois petits loustiques. Emma.
Salut.
Rémi.
Salut.
Et Stan.
Bonjour.
Ouais.
Non, crie pas.
Et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le film d'Emma, L'Anglais qui gravit une colline et descendit une montagne. Un film de 95, réalisé par Christopher Manger avec Hugh Grant et Robert Pugh.
Voilà, vous connaissez pas, c'est normal. C'est un film de mon enfance. C'est un film un peu Madeleine de Proust, un peu tasse de thé en fait. C'est genre le truc que tu bois quand tu vas mal et que tu dois te réconforter. Ça, c'est le film que tu peux regarder quand tu te sens pas très bien et que t'as besoin justement de retrouver l'enthousiasme de la vie et le truc trop cool. L'histoire, c'est réellement deux Anglais qui gravissent une colline, qui redescendent une montagne. D'ailleurs, petit sujet, au Québec, c'est redescendi, c'est pas juste descendi.
Mais...
parce que les Québécois, voilà.
Bah ouais, c'est plus précis par rapport à ce qui se
passe. C'est plus précis, exactement. Donc, on est en 1917, période de guerre, et ça se passe au Pays de Galles, ce qui déjà te met un peu dans l'ambiance sympathique, avec de la verdure partout, c'est des grands espaces, c'est très beau. Et t'as deux Anglais qui arrivent dans un petit village, mais complètement paumé, dont je serais incapable de vous répéter le nom, parce que c'est en... gallois, n'est-ce pas? Et deux Anglais cartographes qui sont chargés par le gouvernement de cartographier absolument tout le territoire sous prétexte que si jamais ils se font envahir, il faut savoir quelles sont les zones de repli, quelles sont les zones à défendre, etc. Et eux, ils doivent mesurer cette fameuse colline. A map maker named Danson has come to measure a mountain. Alors la colline, elle s'appelle Finon Garou, 2FYNON Garou, impossible de
aucun
vous dire.
Aucun rapport avec le chanteur.
Voilà, aucun rapport, mais je sais pas le prononcer parce qu'en gallois c'est juste imprononçable. Et ils viennent donc mesurer cette montagne dont eux-mêmes sont incapables de prononcer le nom. Et ils se retrouvent face à un village qui est un petit peu... Il y a encore un peu de vie dans ce village, mais voilà, tous les hommes sont partis soit à la mine de charbon, soit à la guerre. Il y a un homme jeune qui est resté, on sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, ils se retrouvent là, et ils s'aperçoivent très très vite que les villageois sont très fiers de leur montagne. C'est là que tout bascule.
Et là, c'est le drame.
Une montagne, c'est 1000 pieds de haut. Et Finon Garou ne fait que 980 pieds de haut. Et genre, quand ils redescendent après avoir mesuré, qu'ils disent ça aux villageois... c'est le grand scandale, et c'est là que tout commence, où les villageois se réunissent et se disent « mais c'est pas possible, enfin on peut pas avoir une colline, c'est une montagne, c'est la seule montagne du Pays de Galles en fait ». Et donc ils sont très très fiers depuis des générations de ce truc-là.
C'est vraiment un problème de blanc quand même.
C'est un problème de taille. Et en même temps, voilà, ils sont au milieu de la guerre, tout le monde est un peu désespéré, le village est soudé, mais pas vraiment. Voilà, il y a le seul jeune de cette histoire, c'est un roux en fait, c'est celui qui tient le bar du village. Et en fait, depuis quelques temps, depuis les débuts de la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés et roux en fait.
Donc beaucoup voilà. De bébés
coïncidence,
dans le village.
Je ne pense pas.
C'est très suspect. Il y a évidemment des personnages truculents hein, dans tout le village. Il y a le prêtre qui est absolument incroyable, qui est à cheval sur ses principes. Ouais, le pasteur très très à cheval sur ses principes, qui déteste évidemment le roux, donc il s'appelle Morgan the Goat, parce qu'en plus ils ont tous des surnoms, ils s'appellent tous William ou Morgan, donc de toute façon, voilà, ou Thomas, il y a deux jumeaux notamment qui s'appellent Thomas Toop et Thomas Toop Too, parce que c'est le deuxième, mais personne ne les reconnaît, il n'y a que eux qui se reconnaissent, et voilà, tout un tas de personnages truculents comme ça, et de fil en aiguille, ils vont bloquer les deux Anglais dans le village, pour les obliger à rester, et pour remesurer la montagne, du coup, parce qu'entre-temps, ils vont aller augmenter la colline. Ils vont aller construire un tertre par-dessus, ils vont ramener de la terre, du terrain de foot qui est en bas, pour le remonter là où le professeur d'école, lui aussi, il est truculent et il est complètement désespéré. Ils sont en train de niquer toutes les installations sportives du village. Enfin bon, voilà, c'est assez incroyable. Et en fait, de fil en aiguille, tu sens tous les gens qui sont portés par ce projet, qui sont portés par l'enthousiasme de ce projet, et qui vont tous contribuer, et même le prêtre, en fait. Et même Morgan de Goat, qui au début se disait « mais c'est quoi ces conneries ? Moi, ça me servira juste à vendre des boissons sur le trajet que les gens vont prendre pour aller apporter de la terre. » Voilà, il se met un petit stand, il vend des trucs, même le dimanche, alors que le pasteur est là « quoi ? Le dimanche, sacré, machin !» Et t'as tout le village qui est porté par ce truc-là, et finalement les deux Anglais aussi, qui se mettent à travailler avec eux, dont un des Anglais, c'est Hugh Grant, évidemment.
Avec une coupe chelou.
Bah, en fait, Hugh Grant, dans toute sa splendeur habituelle, hein, Hugh Grant qui, donc, joue pareil que d'habitude, a la même coupe que d'habitude.
Soupire comme d'habitude.
Non, il n'a pas la même coupe que d'habitude.
Bah, pff, c'est cette espèce de mèche, là.
Il y a une mèche moche.
Ouais.
Non, mais là, d'habitude, c'est... Non, moi, j'aime bien Hugh Grant. Je le trouve... J'aime beaucoup Hugh Grant.
Oui, oui, mais Hugh Grant, finalement, mais... c'est Madeleine de Proust aussi, en fait.
Ah, mais carrément.
C'est un acteur qu'on aimait bien, il est un peu lisse, finalement, quand on grandit, quand on devient plus mature, tu vois, mm-hmm. on aime les hommes un peu plus burinés, un peu plus...
Mais c'est un gentil garçon.
Hugh Grant forever, il y a pas de...
J'aime même dans Claude Atlas, tu l'aimes bien.
Oh mon dieu, quelle horreur! Non, Claude Atlas!
C'est pas
Hugh
Grant,
c'est vrai, je me souviens pas.
Il est tellement maquillé.
Et si en plus, les personnages dans Claude Atlas, ils ont plein de visages différents.
Mais je m'en rappelle plus.
Bah, c'est le mec qui.
Il joue un cannibale dans la forêt.
Ah. Non, mais il joue le mec qui a des meufs dans des placards.
Bah, il joue plusieurs rôles aussi, non?
Il y a plusieurs rôles.
Ouais, mais je l'ai vu qu'une fois ce truc-là.
Si.
Tellement long.
Après, est-ce que tu te souviens beaucoup du film?
Oui, parce que j'aime beaucoup ce film.
Ah bon? Ah bah, c'est bien. On en parlera la prochaine fois.
Ah!
La BO aussi d'ailleurs.
Ah oui, BO magnifique. Ouais.
Ah ouais, moi ça m'a pas marqué du tout, j'ai plutôt endormi. Mais bon, j'étais pas enthousiaste du tout pour ce film, donc voilà, c'est pour ça que je vais revenir avec l'enthousiasme habilement en transition.
Juste, nota bene, le public est composé de Christopher et d'Agathe.
Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tout le monde parle, là c'est la fête au village.
C'est la fête au village. Bah, c'est un podcast très organisé, donc.
On est connu pour ça.
On est connu pour ça. Donc, Hugh Grant, ouais, c'est marrant parce que. Bah ouais, on a 600 écoutes. Le Hugh Grant, en fait, le Hugh Grant habituel, j'ai vu une interview du Grant vieux là, donc récemment.
Il a
plus de 50 ans, mais c'est drôle parce qu'il explique sa carrière filmographique et il disait à un moment, je me suis dit, mais putain, je joue toujours les mêmes rôles, il faut que je change. Et donc, j'ai cherché ailleurs, etc. J'ai rencontré un réalisateur qui était trop enthousiaste et tout, qui voulait me filer un rôle. Et quand j'ai lu le synopsis, en fait, c'était la même chose, quoi. Le script, enfin, tu sais, le cahier du film, il a dit. C'est encore le même rôle. En fait, je ne sortirai jamais de ce rôle. Et c'est vrai qu'il est tout le temps comme ça, mais ça lui va hyper bien. Il joue très très bien là-dedans, quoi.
Mais alors, il y a eu. À partir de son scandale, avec la prostituée et tout ça.
Attends, je suis pas au courant.
Quel scandale ?
Mais,
Hugh Grant, prostituée ?
Il a pris une prostituée dans sa voiture, il s'est fait arrêter.
D'accord.
Alors qu'il sortait avec une femme très 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 belle.
Exactement. Et du coup, à partir de là, pendant toutes les années 90, Hugh Grant, c'est le gendre parfait.
Ouais.
Et à partir de 2000, c'est le beau gosse un peu connard.
Ah oui, d'où Bridget Jones, c'est d'où... effectivement.
Voilà. Tu peux reprendre une
alors que...
Je vais arrêter de faire des apartés Hugh Grant.
Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que Hugh Grant, c'est pas du tout... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un acteur assez lisse, en fait, ouais. Mais extrêmement sympathique. Donc, c'est ça aussi qui porte le film, quelque part. Enfin, tu t'attaches très, très vite toujours à ces personnages. En plus, ils jouent toujours le même. Donc, si tu t'es attaché une fois, bah, tu te rattaches.
Juste dire, donc là je suis sur Wikipédia, je regarde l'affiche du film, c'est Hugh Grant l'affiche du film. Hein.
C'est lui qui fait vendre les places, donc c'est
ouais,
normal.
C'est clair. Bah, j'avoue que les autres, j'ai pas trop regardé comment ils s'appelaient.
On voit un peu la colline quand même.
On voit un peu la colline.
Enfin, la montagne.
Respect.
Mais spoil, si j'ai dit la montagne.
Ah, pas fou.
Mais ouais. Et du coup, la musique aussi est extrêmement entraînante dans ce film. Donc, en fait, quand on le voit, typiquement, on se dit putain, faut que je trouve un endroit où il y a une colline où les gens veulent en faire une montagne, et comme ça, je pourrais participer au projet. Enfin, ce serait vraiment trop cool.
Sans nous, on fera un éco-village.
Voilà, ou un éco-village, très bien. Mais voilà. Il y a beaucoup de passages très comiques dû au fait de la différence de langue, en fait, donc le gallois et l'anglais. Et il y a beaucoup de moments où en fait les Gallois profitent complètement du fait que les Anglais comprennent rien pour les rouler dans la farine, les empêcher de partir du village, leur faire croire qu'il y a pas de train qui part, leur péter leur voiture. Enfin c'est voilà. En fait c'est un film comique, c'est un film un peu de base. Il y a vraiment rien d'extraordinaire dans ce film en termes cinématographiques ou en termes de prise de vue ou en termes de montage. C'est juste en fait un film. Il est parfait dans son genre en fait.
Il y a
rien à redire en fait. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment rien à redire et en sortant de là en fait t'as envie de courir partout et d'aider tout le monde en fait. Ce qui est plutôt une bonne chose en fait.
Ouais, c'est un film sur la solidarité.
Ouais.
C'est un film sur l'entraide.
Ouais, c'est exactement ça. Il y a un peu d'amour donc il y a une femme. Non, il y a deux femmes dans le film. Bon, ça, on va pas noter. Hein.
Ouais, mais ça ne sert pas à grand chose. Hein.
Non, mais bon, c'est une époque. Quoi. En fait, tous les hommes sont censés être à la guerre et dans le village, il n'y a que des gars. Donc, voilà, je sais pas.
C'est-à-dire qu'ils sont ou vieux ou handicapés.
Ouais.
Et le seul qui a fait la guerre, il est traumatisé, le pauvre.
Oui, c'est vrai, il est en plein PTSD, le pauvre. Mais voilà, donc en fait, cette histoire-là, elle date. Enfin, elle est surtout portée par le réalisateur à qui on racontait cette histoire quand il était petit, visiblement. Il a dit que c'était son grand-père qui lui racontait cette histoire. Et c'est pas du tout une histoire vraie. Le film est vraiment tourné comme ça, c'est ça qui est drôle aussi, parce qu'à la fin, t'as des images d'époque, t'as des images de maintenant, où les jeunes du village se remettent à reconstruire la montagne, qui est redevenue une colline, évidemment. Et donc, en fait, c'est juste, voilà, c'est le conte au coin du feu, c'est la Madeleine de Proust, c'est le truc un peu sympa, et qui se regarde sans prétention, et qui est très très enthousiasmant. Voilà, je le conseille pour les moments de les jours de pluie ou les trucs comme ça où tout va mal, où on s'est fait licencier.
C'est un film britannique, hein.
C'est un film britannique.
Jour de pluie, hein, c'est quand même parfait. Ah, adapté.
Tout à fait adapté.
Jour de pluie et tasse de thé.
Voilà, exactement.
Et on est dedans.
On est parfaitement dedans. Voilà. J'espère qu'il y a des gens qui vont le regarder pour tout ça.
Et pour Hugh Grant. Non, oui. Et pas que pour Hugh Grant.
Non, pas que pour lui. Voilà, très sympa ce film.
Ouais. Alors juste une petite note à BD.
Ouais.
Au début du film, du coup, ils expliquent qu'il y a que les Williams ou les Morgan. Ils sont déterminés par leur métier. Sauf qu'au final, l'État britannique, au XVIe siècle, il les a interdits de faire ça. Et du coup, il a donné des patronymes fixes.
Oui.
Voilà. J'avais juste besoin de souligner ce détail.
Non, mais en vrai, c'est une anecdote hyper intéressante et qu'on a eue en France aussi.
Ouais.
Nous, carrément, les métiers se sont transformés en nom de famille. Ça a été plus simple. Mais effectivement, il y a une période où on a été obligé de prendre des noms de famille, et il y a un état en Asie, mais alors je sais plus lequel, c'est dommage, qui a fait passer tous ses citoyens dans les mairies pour leur filer des noms de famille complètement aléatoirement, pour justement recadrer sa population, quoi, parce qu'ils avaient que des prénoms.
Et je pense que c'était aussi pour faire un petit recensement de leur
population. Oui, potentiellement aussi, ça faisait pas être un pays très sympa.
Ah, c'est marrant.
Bah, recensement, ça veut pas toujours dire que c'est pas sympa, mais...
Je sais pas, les fascistes sont partout.
C'est bien aussi de savoir combien t'as de gens dans
un pays.
Moi,
je me méfie, hein, ma mairie me dit de venir, j'y vais pas. Hein.
Donc tu vas jamais voter.
On sait jamais.
Emma
que c'est pour voter, que pour...
Pourquoi
ah.
Vaut quoi
voter.
Ah. Vaut qui?
Attends, le mauvais message que t'envoies aux jeunes, les jeunes qui nous écoutaient, allez voter, c'est important.
Oui, votez.
Enfin, les vieux aussi, merde, donnez votre sang, vos plaquettes, enfin tout.
Vos plasmas aussi.
Donnez-nous votre argent.
Alors, on va poursuivre notre épisode sur l'enthousiasme avec... Ouais. C'est bien, il y en a un qui est content d'être là. Avec Rémi, qui va nous parler de No, de Pablo Larine.
Je sais pas moi-même. C'est vrai qu'il y a un accent bizarre
Pablo,
sur le I, non
ça doit être Larine, je pense, non? Parce que...
Je sais pas, il y a un accent espagnol sur le I, je sais pas comment ça se prononce.
Ah, Larine, plutôt.
Larine?
Ouais, mais ça fait un
Larine.
Peu Larine. Ouais, ça fait un peu...
Mais comme on dit chez nous, Larine.
On a changé de continent.
La Raïne. La Raïne.
Bref. Un film de 2012 avec Gael García Bernal, Alfredo Castro et Antonia Zegers.
Eh bien, c'est un film donc chilien. Donc c'est un film historique, entre guillemets, qui raconte un événement réel qui a eu lieu au Chili en 88. Donc pour recontextualiser un peu, ça se passe pendant la dictature de Pinochet, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Mais face à la pression internationale, il est obligé d'organiser un référendum pour savoir s'il restera au pouvoir 8 années de plus. Et c'est la première fois donc depuis 15 ans que en fait les Chiliens ont le droit de choisir, voilà, entre donc la dictature et la démocratie en gros, hein, pour résumer. Donc c'est vraiment un tournant dans l'histoire du Chili. Et en fait durant la campagne pour ce référendum, c'est la première fois que l'opposition a son mot à dire. Ils ont le droit de s'exprimer librement à la télévision. Ils ont le droit à 15 minutes d'antenne par jour. Pour voilà, exprimer leurs revendications. Et donc les membres des différents partis prennent cette opportunité. Ils forment une équipe avec des artistes et des publicitaires d'horizons différents, tous engagés politiquement contre le régime, afin de réaliser la campagne donc, du non à Pinochet. Voilà, d'où le titre. Et donc voilà, donc ça c'est le contexte. Et donc dès le départ, ce groupe, ils veulent créer un spot télévisuel qui défend, enfin qui dévoile les images jusque-là interdites à la télé, de la répression du régime de Pinochet durant les 15 ans de dictature. Dans ce spot, on voit des scènes de massacres, voilà, des massacres de civils, avec des textes, des chiffres à l'appui pour montrer voilà la brutalité du régime. Donc c'est un spot qui a pour but de créer un sentiment d'horreur, voilà, de refus du régime. Et en fait, ils partent du principe que le seul moyen de lutter contre Pinochet, c'est de choquer le spectateur en montrant des images horribles. Mais là arrive donc le personnage principal du film, René Saavedra, le héros donc, qui est un jeune conseiller en communication, qui travaille dans la pub, et qui va disrupter tout ça. Lui, en fait, il rejette totalement cette idée de campagne, et il propose quelque chose de radicalement différent. Selon lui, pour lutter contre Pinochet, il faut au contraire proposer un avenir meilleur aux Chiliens, leur montrer un monde différent, qui suscite des sentiments positifs. Il faut leur donner envie de vivre dans une société démocratique et leur donner les moyens de se projeter dans cette vie-là.
La Startup Nation.
Exactement.
Ça fait une demi-heure que j'essaie de la faire.
Et donc René Saavedra, donc, qui a travaillé dans la pub, il réutilise les codes de la pub pour les injecter dans la campagne. En fait, il veut utiliser un langage publicitaire pour véhiculer un message optimiste, mais en construisant derrière un concept politique. Il propose des spots de pub qui donc vendent une vie meilleure avec des jingles qui font la joie arrive enfin, accompagnés de mélodies accrocheuses, des images de gens heureux, des familles contentes, des paysages magnifiques, etc. En fait, il veut pas juste chasser le tyran du pouvoir, mais aussi créer un enthousiasme pour le monde d'après. Mais à cette époque-là, en fait, c'est un peu le seul à avoir cette vision des choses, parce que tous les opposants sont, pour ainsi dire, enfermés, ils arrivent pas à se projeter, parce que faut s'imaginer que après 15 ans de dictature, pour les chiens de l'époque, en fait, et après une information contrôlée par l'État, en fait, c'est difficile de concevoir une issue électorale à la dictature. Et en fait, pour de nombreuses personnes, le référendum sera de toute façon une fraude, que l'élection est arrangée à l'avance, voilà, que ce sera perdu d'avance, quoi. Et donc, finalement, donc René Saavedra, c'est un peu le seul à être un peu optimiste dans la chose. Donc, pour lui, en fait, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux des gens, de créer un mouvement d'émancipation. À un moment du film, il dit « Nous voulons une victoire différente, nous voulons changer la société ». Et donc Saavedra, c'est un personnage vraiment qui représente l'enthousiasme. Il essaie du mieux possible de communiquer son enthousiasme à la fois au groupe politique dont il fait partie et à la population. Donc en fait, il y a dans ce film l'idée que la politique, ça repose énormément sur les affects et que en fait, dénoncer un état autoritaire, ça suffit pas pour le faire tomber. On le voit par exemple dans une scène où le groupe d'opposants demande la raison de son choix à une femme qui décide de voter pour le maintien de Pinochet. Et en fait, elle répond, moi je vis bien, mon fils fait des études, ma fille a un travail, voilà. Et quand il lui demande, qu'est-ce qu'elle pense des personnes mortes, torturées, des disparues, etc., elle dit, moi je m'en fiche, mais bon, enfin voilà, c'est le passé, quoi, en gros. Et en fait, ce dialogue, ça montre bien que les exactions de l'État n'intéressent pas les gens tant qu'ils ont l'espoir en l'avenir. Et en fait, à cette époque, certaines personnes craignent que la fin du régime de Pinochet pourrait représenter le retour du socialisme, de la crise, des files d'attente, etc. Ils ont vraiment peur du changement.
Au socialisme quand même, hein. Merde.
Oui, ben c'est ça, mais en fait, ils ont tellement été habitués pendant les 15 ans sous Pinochet qu'en fait, le retour du socialisme leur fait peur. Et en fait, il y a pas mal de moments où les garants du pouvoir, en gros, traitent les opposants de communistes. Ils se font un peu de la chasse aux sorcières, quoi. Et donc, en fait, les gens qui soutiennent Pinochet, c'est plus par peur du changement qu'autre chose. Et en fait, ils sont habitués, à la dictature.
C'est vrai que le changement, c'est maintenant. C'est un bon slogan de gauche.
C'est vrai. Pour le coup, si tu veux un changement de gauche, ce que propose le héros du film, c'est plus ce que disait Benoît Hamon, proposer un avenir désirable, tu vois. Là j'ai fait une bonne transition, donc c'est pour ça que il pense qu'il faut une nouvelle image au changement, quoi. En fait, il veut créer un nouvel avenir, un nouvel imaginaire politique. Du coup, dans le film, la politique est montrée énormément comme une affaire de communication, de représentation, et on sent aussi que le réalisateur est assez critique vis-à-vis de cette image de la politique. En fait, on le voit parce que le langage de la publicité, vu que c'est que des publicitaires qui font cette campagne, le langage de la publicité supplante un peu celui de la politique. À un moment, il compare la démocratie à un produit qu'il faut vendre. Certains des spots semblent un peu artificiels. Ils assimilent un peu les citoyens à des consommateurs. Et les spots, finalement, quand on les regarde, ils sont assez vides de contenu politique. Ça vend une image très positive, très enthousiasmante, etc. Mais politiquement, il n'y a pas vraiment de discours, quoi. On y voit des gens heureux qui dansent, qui chantent, etc. Mais il n'y a rien de concret derrière. Et c'est là que je trouve le film intéressant, c'est qu'en fait, il montre en quelque sorte les limites de l'enthousiasme. René Saavedra a créé un mouvement basé sur une émotion vive qui vise à enthousiasmer les gens pour le changement, etc. Mais sur la base d'une idée abstraite et vidée de tout contenu politique. Et finalement, dans l'histoire, même si le vote non l'a emporté et que Pinochet a été destitué, le régime va rester en place et ça va pas créer un vrai changement radical, quoi, de société. Et le film le montre bien, le début et la fin du film sont identiques, le héros proposant les mêmes discours au début et à la fin du film. Finalement, on se rend compte que le changement était très artificiel, comme la campagne l'a été. Donc voilà, c'est là que je trouve le film intéressant, c'est qu'il a su créer une dynamique, un enthousiasme, etc., mais basé sur très peu de contenu politique, et ça se manifeste dans le peu de changements politiques qu'il y a eu, quoi.
T'avais peut-être juste la première étape, c'était virer Pinochet, et on réfléchira après, en fait.
Justement, tu vois. Mais ça, on le voit dans pas mal de... Quand tu regardes l'histoire des luttes, etc., en fait, t'as souvent une révolution qui vire le pouvoir en place.
Oui, qui compte.
Mais en fait, typiquement, quand tu prends la révolution russe en 1917, t'as eu une première révolution en février qui a viré le tsar, etc., et une autre révolution en octobre qui a imposé le socialisme. Et là, en fait, finalement, il n'y a eu que la première révolution, tu vois. C'est-à-dire, ça vire la dictature. dictature, mais derrière, il n'y a rien, tu vois. La transition démocratique a duré quelques années, mais ça n'a pas fait en sorte de, voilà, de virer la junte militaire, etc. En fait, tu as toujours un pouvoir très autoritaire. Surtout, ce que dit bien le film, c'est que, en fait, donc, ils ne sont pas passés à, vraiment à un socialisme, c'est-à-dire que ça a même renforcé le capitalisme, dans le sens où, pour faire toute cette promotion, voilà, de la démocratie, ils ont utilisé les instruments capitalistes. C'est-à-dire que, voilà, le mec, donc le héros, qui travaillait dans la publicité, lui, il faisait des pubs pour Coca-Cola, etc., et il utilisait les mêmes codes. Et en fait, quand tu regardes ces spots, ça fait un peu la gloire du capitalisme. Et c'est pour ça que le réalisateur est très critique vis-à-vis de, voilà, ce qu'il assimile, voilà, un renforcement du capitalisme et un renforcement du pouvoir autocratique. Parce que finalement, il est légitimé, vu que le peuple a voté dans le référendum. C'est comme si, voilà, il légitimait ce pouvoir. Donc voilà, finalement, pas tant de changements que ça, etc. Donc voilà, mais je trouve ce film, en tout cas, très intéressant. Esthétiquement, le film, moi, je le trouve magnifique. Parce qu'il a fait un choix esthétique qui est assez audacieux, c'est-à-dire que il mêle des images d'époque avec les images de fiction. Et pour ça, en fait, il a homogénéisé la colorimétrie, je sais pas comment dire,
l'étalonnage,
ouais. Et en fait, même les images de fiction sont un peu dégradées artificiellement pour faire en sorte que ça ressemble à des images de la télévision de l'époque. Tu vois.
En fait, il a utilisé 4 caméras de l'époque, ouais, des années 80, pour filmer certaines scènes du film et pour que c'est une cohérence esthétique et pour que au final les spots aient toujours l'air de venir de la même époque.
Ouais. Bah franchement, c'est super bien fait. Moi, quand je l'ai vu la première fois, en fait, je savais pas du tout ça et je pensais que c'était que de la fiction, quoi. Et en fait, il y a beaucoup d'images de l'époque qui s'intègrent super bien au film. Et en fait, on peut voir l'esthétique du film. C'est un peu bizarre en fait, parce que tu vois, c'est un format carré, il y a beaucoup d'aberrations chromatiques, de lumière trop vive, etc. Parce que forcément, vu que ça représente la télé de l'époque, tu te dis, ouais, ça fait pas très cinéma, tu vois. Mais moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai senti que ça fait bien passer le message. Ouais. J'étais bien inscrit dans l'époque. Et,
oui, ça fait partie.
Ça contribue à l'immersion.
Ouais. Ouais. Et ouais, pour rajouter, il a aussi utilisé des acteurs et des chanteurs et des danseurs de l'époque. Enfin, des gens qui sont dans le film.
Pour rajouter, qui ont connu l'époque, du coup, ouais, qui ont vécu tout ça. Et, d'accord.
Légitimité, donc, quoi, la contextualisation.
Ouais, ouais, carrément.
Non, mais du coup, voilà, je trouve que c'est super bien foutu. En vrai, moi qui connaissais rien du tout à l'histoire de l'époque, j'ai beaucoup appris grâce à ce film. Après, il y a pas mal de partis pris. Et après, en me renseignant là récemment sur le film, j'ai appris par exemple que le héros, en fait, c'est un personnage de fiction qui a été écrit pour le film, qui n'a pas vraiment existé. Mais dans l'ensemble, la trame générale est à peu près semblable à ce qui s'est vraiment passé. Et le film apprend beaucoup de choses sur comment la lutte s'est passée, pas seulement dans la rue, mais aussi quelque chose de l'ordre de la publicité, de la communication, etc.
Puis en plus, le réalisateur, il est très impliqué politiquement parce que son père est un ancien opposant à Pinochet.
Ah oui.
Et c'est un sénateur et une figure importante de la droite chilienne.
De la droite chilienne.
Ah ouais. Et sa mère, c'est une ancienne ministre.
D'accord.
Du coup,
mais tu vois, finalement, ça me choque pas plus que son père soit de droite, parce que en fait, il est un peu critique quand même vis-à-vis des mouvements de gauche dans le film. C'est-à-dire que même, je pense que voilà, si lui a fait ce film-là, c'est pour montrer comment ça s'est vraiment passé. Et c'est-à-dire que on voit quand même qu'il y a pas mal de d'utilisation des codes de la pub, etc., à des fins, voilà, plus marketing que politique. Donc il est quand même critique vis-à-vis du camp qu'il est censé défendre, quoi.
Après, lui, quand il avait 12 ans, il a été ses parents l'ont mis aussi dans des spots, enfin il était dans la campagne de ses parents quand il avait 12 ans.
Ah ouais.
Donc, voilà, c'est rigolo comment quand t'es d'un côté, tu peux peut-être tu sais, quand t'as un pied dedans, des fois ça te permet de te sentir plus légitime pour parler.
Ouais, après sa critique, elle est peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais je sais pas s'il va jusqu'au bout, parce qu'en fait, peut-être qu'à l'époque aussi, les opposants, ils se disaient, ils y croyaient pas, ils se disaient, bon, ça passera jamais, donc on réfléchit pas à la suite.
Ouais, il y a beaucoup de ça. Mais en fait, dans le film, il montre beaucoup, parce que en fait, quand donc le héros arrive dans le groupe politique, ils sont en train de préparer la campagne, tout le monde lui dit, en gros, voilà, il faut montrer toute l'erreur du régime, parce que c'est le seul moment où on a la liberté d'expression de le faire. Et en fait, ils le disent en mode, de toute façon, on fait pas ça pour le référendum. On fait ça pour dénoncer, etc. Et lui, c'est le seul qui croit vraiment à ce référendum. En mode, oui, on va arriver à faire quelque chose, etc. Donc oui, il y a totalement ça. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Rémi. On va finir avec Stan.
Légère.
Qui va nous emmener dans un paysage...
Un hiver un peu plus léger.
Oui. Plus
Ah, pas forcément, non.
On reste dans le commercial, quand même. Hein,
dans le grand commercial, le grand Satan capitaliste.
Et du coup, Stan, tu vas nous parler de la grande aventure Lego de Phil Lord et Christopher Miller, qui date de 2014, avec dans sa distribution voix américaine Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett et Alison Brie.
Entre autres.
Entre autres, oui, parce que...
Il y a pas mal de voix. Et la grande aventure Lego, ou The Lego Movie, hein, sa version originale, qui est un film qui maintenant s'intègre dans un univers qu'on pourrait appeler le Lego Cinematic Universe, qui, je pense, va être amené à s'agrandir, et qui fait preuve, je trouve, dans ses titres, d'une originalité, puisque nous avons la grande aventure Lego 2, Lego Batman, le film, Lego Ninjago, le film. C'est encore mieux en fait si on regarde en anglais The Lego Movie, The Lego Batman Movie, The Lego Movie 2, The Lego Ninjago Movie, etc. Je pense que chacun sera en capacité de deviner le titre des prochains opus. On va être assez tranquille. C'est un film de la Warner, donc c'était produit par les studios de la Warner Bros. Animation, épaulé par Animal Logic, qui est un studio d'effets spéciaux australien. J'en finis là quand même avec.
Ils ont enregistré un peu au Danemark aussi.
Et je vais plutôt rentrer dans le côté
awesome.
Pathos. Hein.
Awesome.
Exactement, je trouve ce film absolument formidable, il est awesome. Ouais, je tue un peu le suspense d'entrée sur est-ce que ce film est bien, est-ce que ce film n'est pas bien, ce film est incroyable. Ce film est incroyable, mais il est très américain aussi. Très américain dans le sens positif, melting potien, et plutôt que le sens salade bowlien. Voilà. Je pourrais préciser si
c'est
si
les cours de lycée, ça.
Ouais, c'est exactement,
c'est salade,
ça me revient de mes cours d'histoire de terminale, je crois.
Mais c'est trop ça, le salade bowl et le melting pot, ouais.
Donc tu as toutes les influences qui se sont mêlées les unes aux autres, qui se sont bien intégrées, qui ont abouti à quelque chose de nouveau.
Et
le salade bowl, qui est ton bol de salade lorsque tu sépares bien ta salade de ta tomate, etc.
Voilà.
Chaque communauté vit l'une à côté de l'autre et surtout ne se mélange pas. Donc,
on n'a pas été au même lycée.
Ouais, Lego.
Je me souviens pas du salad bowl.
C'est vraiment dommage.
Ouais,
c'est quelque chose de salad bowl. Je salue ma professeure d'histoire de terminale. La grande aventure Lego, c'est pas mal de choses du coup. C'est du stacanovisme, c'est du Captain Obviousisme, beaucoup de Captain Obvious. C'est une flopée de révérences, c'est du rythme, c'est de la vanne, c'est des références, c'est du rythme, c'est des jolies couleurs chatoyantes qui vous font chatoyer les mirettes. C'est des références et c'est un thème musical d'une profondeur exceptionnelle. Bon, alors, c'était pas assuré au début, hein, a priori, puisske la Warner a financé le film, et puis au fur et à mesure, elle s'est dit, je sais pas, il y a Village Roadshow Pictures, qui est un autre producteur, qui a dit, ça m'intéresse, et puis la Warner a fait, non. Et puis elle fait, bon, en fait, ok pour 25%, puis en fait, ok pour 50% de la financement du film, au fur et à mesure qu'il avançait, parce qu'ils étaient pas du tout chauds, en fait, les gars. Et ils sont arrêtés à 50%, et le film a plutôt bien marché. La grande aventure Lego, c'est, au-delà d'un super film d'animation, c'est un film qui rejoint pour moi l'Odyssée de Pi. C'est un de mes préférés dans la catégorie. Mais si, enfin, j'étais sûr que c'était un film pour les enfants.
Bah là, pour le coup, c'est un film pour les enfants.
C'est aussi un film pour les enfants, ouais. C'est justement ça. Tu peux emmener tes enfants, ils vont pas être traumatisés, est-ce que même de passer un bon moment.
Mais pas trop. Enfin, c'est pas du tout traumatisant, là, il regarde sur Lego.
Non, l'Odyssée de Pi, par contre.
Pi.
Oui.
L'Odyssée de Pi, tu l'as vu?
Oui, non, mais on l'avait pas déjà parlé dans le podcast.
T'as écouté le podcast?
Mais oui,
j'ai écouté le podcast, Rémi.
Comparez-vous à écouter le podcast.
Je vais dire ça, mais.
Ok. Donc bien évidemment un enfant appréciera totalement le film, mais il passera à côté d'une grande partie des clins d'œil, hein, des références à la pop culture de l'histoire. À nouveau, j'ai fait une séance cinéma qui s'est doublée d'une expérience sociologique, avec la majorité de la salle qui était constituée de familles, hein, bien sous tout rapport bien évidemment, plus 2-3 groupes de jeunes adultes, on va dire entre 20 et 30 ans pour ne rien préciser, qui se marraient comme des baleines à bien des moments où les enfants regardaient leurs parents avec cet interrogateur, mais pourquoi c'est drôle?
Ils sont vraiment cons ces vieux.
Mais oui, parce que les parents étaient en mode « j'en sais rien, je sais pas en fait ».
Ah, ils sont vraiment cons ces trentenaires alors.
Oui, nous on est cons, nous on est vraiment cons.
Ouais.
Good morning, apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit them. Yes, overpriced coffee.
That's $37.
Awesome.
Ça respire la couleur, ça transpire la bonhomie enfantine. Et le message derrière est quand même une tristesse sans nom. C'est voilà, vous êtes des hommes, vous êtes des personnages, mais en fait vous n'êtes qu'une petite pièce dans un rouage infernal, dans une machinerie. Vous allez être écrasé par celle-ci. Et vraiment, tout le film en fait va être un petit peu comme ça.
Mais c'est quoi l'histoire?
L'histoire, mais j'y viens. Mais excellente transition.
Pardon.
Ça peut être travaillé, ça.
Mon moment proustien, je passe maintenant à la partie du gâchage. Merci.
Divulgachage.
Bien évidemment, je vais la faire avec doigté et légèreté, hein, je vais pas tout spoiler. En même temps, bah en fait, c'est un film...
Tu vas spoiler le gros twist ou pas?
Non, faut pas raconter la fin, surtout.
Je vais pas raconter la fin, mais bon, c'est quand même pas un film avec une histoire exceptionnelle, dans le sens twistique du terme.
Twist! Faut pas regarder.
Oula, c'est... On a le
pas
droit
besoin d'un copyright.
Alors, c'est un film qui nous narre les aventures d'Emmett, un homme normal, dans une ville normale, avec une routine normale. Pas loin d'écouter de la Human Music, sortie d'un épisode de Rick et Morty. Ce personnage banal va voir sa destinée devenir exceptionnelle après que, grosso modo, tous les personnages importants du Lego Universe dans lequel il vit vont se dire que, en fait, c'est lui l'élu, le spécial, celui qui va résoudre tous les problèmes et les situations. Alors, les problèmes, c'est celle... l'idée, c'est de combattre les plans du machiavélique Lord Business. Voilà. Je vous disais qu'il y avait des messages sous-jacents, cachés...
Mais ils sont pas sous-jacents, là
Complexe à deviner ou pas. Qui se cache sous une très originale couverture qu'on vous laissera de identifier
on
hein,
film
pendant
le
film
Macron,
et qui souhaite
il est très
figer
notre épisode je trouve
je m'accroche je continue et qui souhaite figer hein, littéralement c'est-à-dire dans la colle hein, on est avec des Legos le monde en un ensemble harmonieux c'est beau okay. C'est beau c'est une puissance et c'est figé dans la dans
c'est gluman
dans le plastique okay. Quoi donc bon c'est quand même un petit prétexte hein, à l'alignement de situation il y a effectivement un bon twist final qui est sympathique bon qui on laissera à tout à chacun le plaisir de découvrir. Et donc pour finir, parce que bon, finalement, j'ai fait mon moment proustien, j'ai fait un peu de divulgachage, je vais vous parler de la bande-son. Parce que Lonely Island aussi, c'est vrai. En fait, il y a un thème, vraiment, il y a toute une bande-son, mais il y a un thème, c'est Everything is Awesome. C'est un thème puissant, communicatif, inspiré, profond, avec une qualité de texte exceptionnelle. Everything is awesome. Ok, ouais, non, alors au premier abord, non, en fait, au deuxième non plus, hein, c'est vrai. Mais quand on prend la première séquence d'introduction du film, puis ensuite on cale la mise en place de ce premier thème-là, et ça fonctionne parfaitement, ça appuie un caractère stakhanovien de la vie initiale d'Emmett, on nous place vraiment dans le truc dans « Ok, ce personnage est une brique du système. C'est vraiment un tout petit élément. Celle-ci a été réfléchie super longtemps. » Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il fut reproché au film de dissimuler une critique, justement, contre le business, contre la société capitaliste, notamment
les entreprises,
ouais, par rapport à ce que à l'État, à l'utilité de l'État.
Dans quoi
Pardon.
Contre l'utilité de l'État.
Oui, contre le fait que ce que fait aux États-Unis, de manière générale, il y a quand même une idée que ce que fait l'entreprise privée est bien. Ce que fait l'État, c'est de la merde.
Oui, oui, oui.
C'est quelque chose d'assez sous-jacent à la société. On va le retrouver soit de manière assez fine, soit parfois de manière pas très fine du tout dans certains discours libertariens. Mais c'est quand même une idée sous-jacente qui est assez appuyée. Et donc, il y a notamment eu un sénateur US qui s'appelle Ron Johnson qui a critiqué le film parce qu'il avait un message anti-corporate, ce qui est donc complètement à l'encontre de ses idées, et puis d'une certaine idée générale de la société. Ce à quoi, l'histoire du film, on dit oui.
Allez.
Oui, voilà. C'est assumé.
Ah, mais vous savez, êtes très subtil, monsieur.
Il y a peut-être une raison, en fait, à ce qu'on passe ce genre de discours. À vous de voir. La Grande Aventure Lego, c'est vraiment un film qui m'a collé la patate. Donc, c'est un excellent film d'enthousiasme. Vous rentrez dedans, vous ressortez avec la banane, et c'est ça qui est génial.
Ok, est-ce qu'on a envie de renverser le gouvernement quand.
Si jamais ton gouvernement est fait de petites briques de plastique multicolores, alors peut-être.
Go for it.
Vas-y.
Alors, juste pour anecdote. Pour les besoins du film, ils ont utilisé plus de 15 millions de briques pendant le tournage. Oui. Et surtout, la Grande Aventure Lego et la Grande Aventure Lego 2, c'est les deux seuls films de l'univers Lego où, en gros, des éléments comme l'eau, le feu, etc., sont matérialisés par des briques.
Oui.
Parce que dans Batman ou bien dans Ninjago, tu vas vraiment avoir de l'eau, des choses comme ça.
Mais c'est fou qu'ils aient réussi à faire ça. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'arrivais pas à croire que ce soit que des briques. Ça paraît complètement.
Graphiquement, c'est assez fou. C'est très fluide aussi.
Ouais. Oui.
C'est ça qui est très très bien fait.
C'est vrai. Ça renforce vraiment
l'immersion.
L'immersion dans le film.
Truc, tu te dis, ouais. Ah ouais, je suis vraiment en train de regarder des gens en train de jouer au Lego, quoi. Des Lego qui bougent.
Exactement. Et ça, c'est ce qui fait que. Enfin, ça rajoute une couche de sens au film qui est. Parfait.
Et ça permet de vendre des Lego aux adultes.
Oui, mais les adultes, ils achètent tout si tu mets DC ou Marvel dessus. Donc voilà. Et puis il y a les Tortues Ninja qui traînent, donc il y a un moment.
C'est awesome.
Ah, ils vont faire un Lego Tortues Ninja.
Non, il y a les Tortues Ninja.
D'accord.
Dans le film. On les voit.
Il y a beaucoup. Il y a Batman. Il y a
des joueurs de la NBA.
Il y a un spationaute.
Ils ont mis toutes leurs ressources dedans.
Bah, toutes les licences qui est Warner et
Disney. Ils ont besoin d'avoir licence des autres, enfin, ça appartient à Lego, a priori. Enfin, j'en sais rien en fait.
Non, c'est que Lego a un partenariat avec les différents.
Ah oui.
En fait, comme c'est Warner qui produit, du coup, c'est les licences Warner.
D'accord, ok, ouais.
Voilà. Merci beaucoup, Stan.
Mais je t'en prie.
Et du coup, pour conclure cet épisode, qui sera sûrement le dernier de la saison.
Tintin.
Et on se revoit à la rentrée avec un nouveau format. Non, je vais toujours
faire. Fais pas des annonces.
Alors, nouveau format, peut-être pas. Mais on se reverra sûrement à la rentrée, j'espère. J'espère que cette saison
on
vous aura.
On s'entendra en tout cas.
J'espère que vous êtes enthousiasmés avec nous.
On peut inviter des gens aux sessions d'enregistrement. Si vous voulez participer aux sessions d'enregistrement, appelez-le
06.
Allez, on va dire.
On va être 40 dans mon 21 mètres carrés, ça me paraît être une très très bonne idée.
Oui, d'ailleurs, je voulais vous proposer un nouveau format pour la rentrée, ce serait exclusivement des films de Christian Clavier. Et j'avais pensé que.
Mais c'est que t'as un podcast sur Luc Besson.
Oui,
ça s'appelle. Parle à mon Luc.
Parle à mon Luc, ouais. C'est très bien d'ailleurs, c'est très rigolo. Alors, du coup, mon jeu, aujourd'hui, tout le monde va participer, même notre public chéri.
Incroyable. Awesome.
Alors, comme on parle d'enthousiasme, je voulais qu'on parle de l'enthousiasme des spectateurs de cinéma. Et du coup. C'est tout simple, le jeu. Il faut deviner lequel des deux films a fait le plus d'argent.
Le 1.
Oula.
Donc je vais vous proposer deux films à chaque fois. Et vous devez.
Titanic.
Vous devez deviner. Enfin, vous devez choisir lequel des deux a fait le plus gros chiffre au box-office.
Okay.
Vous êtes prêts?
Yes.
Oui.
Yes.
Alors, numéro 1, La folle journée de Ferris Bueller versus The Breakfast Club.
Ouais. Chaud.
Je dirais Ferris Bueller, moi.
Titanic.
Bien
sûr. Lequel est sorti après? Breakfast Club est sorti après?
Non, c'est d'abord Breakfast Club et après c'est Ferris Bueller, je crois.
Ah, c'est dur.
C'est World Wide ou sur un territoire en particulier?
World Wide.
Très bien, Titanic.
Non, aucune idée, franchement, j'ai aucun des deux.
Moi je dirais Ferris Bueller juste pour choisir un truc.
Ouais, mais c'est dur parce que. Ouais,
du coup, donnez-moi une réponse.
Bon, Ferris Bueller, j'en sais.
J'ai 2-2 là.
Bah oui, mais on est un peu.
Bon, alors du coup, c'était Ferris Bueller avec 70 millions de dollars versus Breakfast Club qui a engendré 50 millions de dollars.
Ah, c'est tout.
D'accord.
Hey.
Voilà, voilà. Enfin,
c'est tout.
Ok, c'est bon.
Là,
mon rib est le.
Alors, numéro 2. Dumb and Dumber versus Very Bad Trip.
Oh, Very Bad Trip, non, mais évidemment. Ouais, ah, Very Bad Trip, il a fait.
Je sais pas, Dumb and Dumber, c'est censé être un film culte, machin, tout le monde l'a vu.
Ah, Very Bad Trip, c'est beaucoup plus culte que.
Moi, j'ai voté pour le VBT. Hein.
Alors, un VBT, deux VBT, trois VBT, VBT a gagné.
Ouais, en vrai, j'aime pas Dumb and Dumber.
Je suis la dissonance, je vais dire Dumb and Dumber.
Eh bien, c'était Very Bad Trip. Ah. Le premier épisode de la trilogie a rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde, tandis que Dumb and...
Bah ouais, c'est vrai, ça.
Effectivement.
Avec l'inflation.
Ah. Bon, vous allez pas m'embêter, là.
Non, mais ça se trouve, c'est déjà compris dans le truc.
Non.
Bah, on va dire que oui.
Attends, ils vont pas nous parler d'anciens francs et d'euros. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens.
Je crois que c'est Jazia qui a trouvé les... Bon, bref, peu importe.
Mais on fait confiance à Jazia.
Oui, faites confiance à Jazia un petit peu. Et du coup... Dumb and Dumber a fait 250 millions de dollars.
D'accord.
Dans
Bim.
Le monde. Numéro 3. Spider-Man 2002 versus The Amazing Spider-Man 2012.
2002, donc Tobey Maguire contre...
Andrew Garfield.
Ah, bah c'est de 2002, le premier, ouais.
Je pense que celui
Andrew Garfield a fait plus de thunes.
À cause du marketing, tu sais.
Alors,
c'est lequel,
Toby
parce que c'était
ou Andrew
c'est lequel où il se balade de grue en grue?
C'est celui avec...
Tous.
C'est
le Amazing.
Moi aussi, je dis celui-là.
Alors, on a deux Amazing.
Parce que la scène de la grue...
Non, le premier, ouais.
Allez, allez.
Moi, je prendrais une salade.
Une salade et...
Un Big Mac.
Ok. Eh bien, c'était c'est la version avec Tobey Maguire et de Sam Raimi qui a fait 820 millions de dollars versus Andrew Garfield qui n'en a fait que 800.
Mais c'est quoi ces chiffres?
Mais tu vois, la différence, c'est pas énorme, il y a que 20 millions d'écart.
Ouais, mais par contre,
j'aime bien le que 20 millions d'écart.
Non, mais avec Breakfast Club et des trucs comme ça, enfin, t'imagines le délire, quoi.
Tu sais, c'est quand des films ils deviennent cultes après en fait. Ils font un bide à la sortie, puis après finalement le film prend.
Ouais, mais même
enfin,
mais
là
même...
pour les deux films on parle de pas de bide. Hein.
Oui, non, mais même à sa sortie, je me souviens que c'était un événement le film de Sam Raimi.
Alors que regarde des films de grande qualité comme The Room qui ne fonctionnent pas du tout au démarrage, qui ont une exceptionnelle carrière sur le long terme.
Sur le très long terme, ouais.
Numéro 4, N'oublie jamais de Notebook versus Avant toi, Me Before You. On est dans le monde de la comédie romantique.
Je sais même pas ce que c'est.
Ah bah Titanic.
Non. Attends, le notebook, c'est pas avec l'autre là
Ah, c'est avec Ryan Gosling.
Avec Ryan.
Avec Ryan. C'est avec Ryan Gosling et Andrew Adams.
J'attends les commentaires romantiques avec Ryan.
En fait, c'est Angleterre versus America.
Et l'autre, c'est Sam Claflin et Emma Clarke.
En gros, c'est Daenerys, c'est le mec au trident dans Hunger Games. Voilà.
Moi, je connais pas, mais je vais dire The Notebook.
Attends, un film romantique avec Daenerys, c'est ça?
Ouais.
Oui, je crois que j'ai lu un truc là-dessus.
Je déteste ce film. Et un jour, je vais dark, mais... Non, mais un jour, je parlerai de ce film et je m'énerverai sur
le
ce
mec,
film.
Le mec, il est handicapé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et elle est à son service comme une vieille esclave. Et,
c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème. Ouais, du
ça,
film.
Ça fait partie du problème, non?
T'as vu le film?
J'ai lu un truc sur le film et en fait, j'ai été tellement dégoûtée de la vie que je l'ai pas vu.
Mais un jour, on en parlera.
Mais la Daenerys, elle a une sorte de réputation de pas être super bonne en film, donc j'aurais tendance à dire que c'est celui-ci qui a pas gagné.
Ah, mais c'est pas une réputation. Mais t'as vu Terminator Genesis ou pas? Enfin,
oui, je l'ai vu, ouais. Voilà. Un gros gâchis de. C'est pas David Tennant, c'est.
Non, c'est Matt Smith.
Gros mais gâchis de
et de Lee Byung-hun. Lee Byung-hun, il est là
ah ouais,
pour rien.
Oh
là là.
Et Schwartzy.
Et cette bande-annonce ridicule qui te spoil le twist le plus important du truc, le truc le plus intéressant du film.
C'est pas la bande-annonce, c'est l'affiche qui spoil.
La bande-annonce.
Ah, la bande-annonce aussi.
Ah oui, oui.
Et puis même l'explication à la mort moelle 2, genre.
Le film spoil le scénario.
Je suis vieux parce que blablabla. T'es là, genre. Non, arrête ta gueule.
On s'est un peu éloigné. Du coup,
notebook contre quoi
Me Before You.
Pour embêter Emma et Jazia, je veux dire, je vais voter Daenerys.
Ah bah, moi je vais voter The Notebook.
Notebook aussi.
Eh bien, c'était Me Before You.
Oh, sérieux.
The Notebook a fait 118 millions de dollars et Me Before You en a fait 210.
Mais c'est sérieux.
C'est celui avec Daenerys ou
oui,
avec...
c'est celui avec Daenerys.
Ah ouais.
Non mais attends.
Je suis sûre que les gens ils sont venus. Je crois que c'est sorti avant Genesis et je crois que c'était le premier vraiment grand film avec Emilia Clarke. Et je pense que les gens en fait ils sont venus pour ça, juste pour ça en fait.
Mais tu te rends compte le scandale? Genre une actrice trop nulle qui joue mal et ça a fait 200 millions de dollars quoi.
Il y a Sam Claflin.
Oui, bah, mais
je déteste le film.
C'est pas,
again,
tu vois.
Mais je l'aime bien lui. Il est chou.
Je suis choquée.
Mais t'as un moment cinéphile quand même dans le film. Le gars lui montre un film français. Et donc au début, la fille dit « Ah, les films français, c'est nul, c'est ennuyeux. »
Puis elle est pas là, en mode « Les sous-titres, c'est de la merde. »
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Puis à la fin, elle est en mode « Oh non, mais ce film, il a changé ma vie, il est trop bien. » C'était « Des hommes et des dieux », pour info.
Non, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
C'est trop marrant, ça.
Bref, revenons à nos moutons.
Il y a une notion culturelle dans ce film, non ?
Le numéro 5, numéro 5, Harry Potter à l'école des sorciers versus Harry Potter et la relique de la mort, partie 2.
Bah, la relique de la mort.
La relique de la mort, bien sûr.
Normalement.
Oui, bon, ça c'était ça.
Ok, voilà. J'attendais un twist, je me suis dit, on sait tout ça.
Non, mais en vrai, la différence, c'est. Enfin, elle est quand même grosse, mais le premier film a fait 974 millions de dollars. Et le dernier a dépassé le milliard de dollars.
Mais non. C'est l'inflation, tout ça.
Non, je pense qu'il y a vraiment plus de.
C'est vrai que ramener à l'inflation, le premier a fait plus.
Bah, non, mais ça se trouve, l'inflation est comprise dans les prix là.
Dans le Royaume-Uni sur la période, t'avais facilement
déjà,
2% d'inflation par an.
Il est en 3D. Donc, déjà, les gens devaient payer un petit supplément pour les lunettes 3D.
Oui, mais ça, c'est pas le film qui va récupérer les sous, c'est le cinéma.
Ah,
c'est la chaîne. Bref.
Ouais, donc là, c'est. Oui.
Numéro 6, Shrek versus Toy Story.
Toy Story.
Ah merde.
Ah bah Toy Story, non.
Non, mais alors le 1,
je sais pas.
Shrek 1, Toy Story 1.
Le roi et l'oiseau.
J'irai Shrek.
Incroyable le film, faut que je le chronique.
Tu dis Shrek? Moi je dis Toy Story.
Putain, les deux étaient trop bien, je sais pas quoi dire.
Ouais.
Moi je dis Shrek
Toy Story.
Story,
groundbreaking, innovation.
Ouais, c'est vrai.
J'ajoute 4, je retire 8, je multiplie par l'inflation de 97 à 2019.
Racine carrée de Shrek.
L'évolution des technologies.
Ouais.
Si j'ajoute l'âne.
Bon, je vais vous donner la réponse parce qu'on va nulle part là.
Oui, s'il te plaît.
Eh bien, c'est Shrek qui a fait 480 millions de dollars versus Toy Story qui en a fait 375.
Ah, c'est pas mal.
Ah, eux deux, ils battent pas Harry Potter 1, c'est la loose.
Ah bah, Harry Potter quoi.
Alors, l'avant-dernier. The Greatest Showman versus La La Land.
Alors, il me semble qu'il a fait un bide Greta Showman, donc je dis La La Land.
Ouais.
Et ben c'est La La Land, mais la différence c'est vraiment pas extrême.
Ah ouais.
La La Land a fait 445 millions de dollars et The Greatest Showman a fait 430 millions de dollars.
D'accord, ah ouais.
Donc voilà, on est vraiment sur pas grand chose de
l'écart. Okay.
La revanche de Ryan Gosling sur Me Before You.
Et pour finir, Stan, celle-là elle est pour toi. Titanic versus Avatar.
Titanic.
Mais arrête, Avatar c'est trop bien.
Ouais, mais c'est quand même Titanic.
Il est sorti deux fois
Titanic.
Normalement c'est donc c'est Titanic et Avenger est en train de le battre là ou est pas loin de le battre.
Non, parce qu'il va ressortir Titanic. Aussi pour le niquer.
Fois. Exactement. Mais en tout cas c'est Titanic normalement.
Dès qu'un film nique Titanic, il ressort Titanic.
Absolument. Et à chaque fois, les gens y retournent.
Ouais. Et ben non. Hein, c'est Avatar.
Non, allez, meilleur film du
Avatar qui a fait 2,7 milliards de dollars.
Mais putain, versus inflation,
Titanic
inflation.
Qui a fait 2,1 milliards de dollars.
Oui, mais rapporté à l'inflation, vu qu'il y a quand même 15 ans entre les deux, je suis désolé.
Ça me rappelle le sketch de Ken Kojandi où il disait bon, bah avec le budget d'Avatar, on pourrait soigner la faim dans le monde. Ils sont là en mode mais non, on préfère les extraterrestres bleus.
C'est clair.
Que nous retrouverons d'ailleurs tous les deux ans grâce à Disney à partir de 2020.
Ouais, mais ils arrêtent pas de les repousser. Ça fait 10 ans qu'ils repoussent.
Là, normalement, 2019 c'est un Star Wars, 2020 Avatar, 21 Star Wars, 22 Avatar, 23 Star Wars,
on va s'amuser.
And so on.
Ah, c'est ça la diversité culturelle.
Absolument.
Je réfléchissais.
Les films indés, hein.
C'était Catharsis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cette saison. J'espère que vous êtes autant amusés que nous et j'espère surtout que vous nous retrouverez à la rentrée si on est encore là.
Surtout ça. Ouais.
Et si on meurt pas de chaud.
Vous êtes encore là. Nous on sera là, merde.
On sera devenu de droite et finalement.
Non. Ça
mais il
n'y
a rien de mal à être de droite, Christopher.
Bah, on fera des films sur, enfin, on fera des chroniques sur Christian Clavier.
Bah oui, c'est clair. Et on fera gloire à Macron au début de chaque épisode.
Bref, et on espérera être peut-être plus ou moins politique. Moi, j'espère beaucoup moins. Allez, des bisous.
On fera christicisme.
Bon été.
Bisous.
Bye bye.
Ciao.